Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Députée La République En Marche de la Somme, présidente de la commission développement durable à l'Assemblée nationale, vous êtes l'une des figures de l'aile gauche de la Macronie pour infléchir la politique vers plus d'écologie et plus de social chez Emmanuel Macron. D'ailleurs, Barbara Pompili, faites-vous partie des députés macronistes qui veulent créer un groupe dissident et transpartisan au sein du Palais Bourbon?
Non, je ne vais pas y aller, même si je comprends complètement leur démarche dans ce futur groupe. Je connais beaucoup de députés de grande valeur qui portent énormément de belles idées et qui simplement aujourd'hui ne voyaient plus comment pouvoir les faire peser. Je crois qu'il y a d'autres moyens de le faire et donc on va s'y employer, mais en tout cas on continuera à travailler avec eux. Il y en a beaucoup qui sont dans la plateforme du jour d'après et on va faire un beau travail tous ensemble, parce que l'important c'est que on avance sur ces sujets.
Oui, mais ce projet de groupe transpartisan pour amorcer un virage social et écologique à la politique macroniste, social et écologique, ce sont bien vos deux marqueurs, Barbara Pompili. Qu'est-ce qui vous a bloqué pour ne pas participer à ce projet?
Vous savez, ça fait longtemps que je porte ces idées-là, et maintenant, ce qui m'importe, c'est que on réussisse à les faire avancer concrètement. Et dans le système actuel, le système de la Ve République, quand on est parlementaire, pour pouvoir faire avancer concrètement les idées, il faut peser, il faut s'organiser pour peser. Un groupe qui est un groupe finalement assez peu nombreux, avec une ligne qui n'est pas très claire sur être dans la majorité ou dans l'opposition, ça va être compliqué pour eux de réussir à faire justement faire avancer concrètement les choses, alors que au sein de la majorité, il y a énormément de députés qui partagent ces priorités-là et qui simplement étaient peut-être un peu trop dispersés. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit pragmatique et qu'on réussisse à faire avancer les choses de l'intérieur. Je l'ai toujours pensé. Simplement, ça n'a pas été suffisamment efficace jusqu'à maintenant. Mais il y a eu un fait générateur. Cette crise terrible que nous sommes en train de vivre a fait prendre conscience de l'urgence à agir. Le président de la République a pris des engagements très lourds et nous, on a plutôt envie de lui dire chiche et de pousser pour que les engagements qu'il a pris, il puisse les mettre en œuvre, et ça va pas être simple.
On va en parler dans un instant de ses propositions pour le jour d'après. Juste de cette question encore sur ce groupe sécessionniste de la Macronie qui serait emmené par Aurélien Taché, par Mathieu Orphelin. Est-ce que ça ne reste ce matin qu'une hypothèse, ou bien est-ce que ça va réellement prendre forme selon vous?
Oh, je pense qu'ils sont déterminés à le faire et après, vous leur poserez la question à eux-mêmes. C'est pas à moi de parler en leur nom. Mais en tout cas, encore une fois, toutes les bonnes volontés sont importantes. Et où que nous soyons, nous devons travailler ensemble pour avancer, parce que c'est dans l'intérêt de tous.
Alors, on retrouve encore Aurélien Taché et Mathieu Orphelin. Parmi les 66 députés qui viennent de signer une plateforme, 30 propositions pour le jour d'après. Vous en êtes donc, vous aussi, une des co-signataires, Barbara Pompili. Les signataires sont de sensibilité écologique et sociale. On va détailler là, dans un instant, les principales mesures, mais est-ce que ça ne démontre pas, là encore, que ces deux volets, hein, écologie et sociale, sont, à vos yeux, les points faibles de la gouvernance Macron?
C'est clairement des domaines dans lesquels nous ne sommes pas allés assez loin. Jamais je ne ferai partie de ceux qui diront que rien n'a été fait, parce que j'essaye de sortir du manichéisme actuel. Donc il y a eu des avancées, y compris dans le domaine écologique, notamment sur les transports, notamment sur la question du gaspillage. Mais par contre, et je pense que d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit aussi pour l'hôpital hier, il y a un problème d'intensité de l'action au regard de l'enjeu. On n'est pas allé assez vite, assez loin, assez fort. On était déjà un certain nombre à le dire, et maintenant qu'il y a une prise de conscience, il va falloir agir. Et c'est plus facile d'avoir des grandes considérations que d'agir concrètement. Et c'est ça l'enjeu, là, des semaines et des mois qui viennent.
À propos de la visite à l'hôpital hier d'Emmanuel Macron, on a entendu donc cette déception de la Macronie dans la bouche de quelques infirmières. C'est tout de même un sacré aveu d'échec pour la Macronie qui, justement, voulait changer le monde.
Oui, mais il faut toujours se remettre en question. Et nous, on était, les parlementaires, assez conscients de ce problème, puisque nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe, et nous faisions remonter, nous avons beaucoup fait remonter ces difficultés, puisque la crise du Covid survient après d'autres crises qui étaient différentes. Mais on avait ces remontées de terrain. On voyait bien qu'il fallait qu'on prenne plus en compte le fait que des personnes souffraient, que des personnes avaient besoin qu'on les aide, parce qu'on a besoin de tout le monde. Et je crois que la crise du Covid l'a montré. Nous avons tous besoin des autres. Et donc, pour ça, il faut qu'on réussisse à faire en sorte que tout le monde puisse bien vivre, puisse bien exercer son métier, puisse aussi être sorti de la difficulté. Et puis, soit préparé aux enjeux d'avenir qui sont les enjeux de la transition écologique. Donc, cette prise de conscience, si elle arrive enfin, je pense que c'est justement pas le moment de partir, c'est le moment là de profiter de cette prise de conscience pour essayer enfin de changer de vitesse d'action, de changer de braquet.
Et parmi vos propositions, précisément, Barbara Pompili, il y a de faire de l'hôpital une priorité nationale. Est-ce qu'il y aurait un pays dont l'exemple serait à suivre ? Je pense à l'Islande, où la première ministre est quelqu'un paraît déterminé, innovante en matière de protection, de solidarité, d'humanité, de sérénité, au fond.
Oui, une femme. Non,
Oui, mais c'est vrai.
Non, je plaisante. Mais c'est vrai ça joue aussi peut-être un petit peu. Mais bien sûr que il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays. On a tout intérêt à, au lieu d'essayer d'inventer de nouvelles solutions, de regarder ce qui se passe ailleurs, tout en sachant que notre pays a ses spécificités, a son modèle social qui lui-même est envié, hein, et on l'a vu avec la crise du Covid, pour beaucoup de malades, c'était quand même mieux, entre guillemets, d'être en France avec le système de santé qu'elle a, même s'il faut l'améliorer, que par exemple aux États-Unis. Donc oui, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, et puis ne pas oublier aussi que nous avons une culture et qu'on peut pas copier-coller comme ça sans adapter aussi à nos modes de fonctionnement qui existent et qui sont bien implantés dans nos esprits aussi.
Alors dans le détail de cette plateforme que vous co-signez, Barbara Pompili, avec 65 autres parlementaires pour plus de citoyenneté, plus d'écologie, plus de sobriété également, vous souhaitez par exemple remettre les collectivités territoriales au cœur de la transition écologique. Que peuvent faire les collectivités de plus qu'elles ne font aujourd'hui ?
Ah, elles en font déjà beaucoup, simplement. Il faut vraiment que, pour la transition écologique, on comprenne qu'il doit y avoir des grandes directions qui sont données au niveau national, mais qu'après, il y ait des applications au niveau local. On ne va pas gérer de la même manière un territoire côtier qui a des problèmes de submersion marine, par exemple, ou un territoire de montagne, ou les grandes plaines de Picardie. Donc, on a besoin d'adapter à chaque fois nos actions à l'environnement dans lequel on est. C'est ça le fameux principe de penser global, agir local. Les collectivités ont des moyens d'agir, notamment au niveau des régions qui sont normalement les pilotes hein, de la transition écologique, sur la question de l'aménagement du territoire, des transports, on voit bien sur la question des énergies, des types d'énergie, les énergies renouvelables par exemple, ça doit être piloté tout ça, on ne peut pas laisser les choses se faire de manière anarchique avec les conséquences qu'on voit. Donc il faut affiner au niveau du terrain et puis au niveau d'une commune, les agendas de biodiversité, les plans de déplacement, aussi la question de l'artificialisation des sols, un des piliers aussi des mesures que nous voulons mettre en place, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols qui est très grave aujourd'hui. On perd encore un département tous les 7 ans et ça c'est le mitage, c'est les petits lotissements par-ci par-là, c'est les implantations de zones industrielles en dehors des villes qui en plus tue le commerce local, tout est lié. Donc c'est un travail qui doit être fait main dans la main et cette coopération avec les collectivités locales, c'est un point absolument essentiel.
Plus de sobriété dans notre façon de consommer, ça passe aussi, écrivez-vous, par une redéfinition complète de la politique commerciale européenne. Exit donc les accords de libre-échange ?
Les accords de libre-échange, ils appartiennent, on pourrait le dire comme ça, à l'ancien monde. Ce sont des accords qui ne tenaient pas compte des enjeux écologiques.
Et vous les amendez, ces accords ?
On s'est retrouvé avec des aberrations. Oui, non seulement il faut les amender, mais c'est surtout qu'il faut les repenser complètement. ça commence à venir tout doucement, mais on est bien loin du compte. Aujourd'hui, on conditionne un certain nombre d'accords au respect des accords de Paris, mais dont on sait que les accords de Paris sont déjà un minimum, minimorum. Maintenant, il faut que les accords tiennent compte du fait que on a peut-être intérêt à échanger un certain nombre de produits, mais pas d'autres. Quel est l'intérêt de faire venir, par exemple, du bœuf en France alors qu'on en a déjà et qu'on en exporte? Je pense qu'il faut repenser nos manières d'échanger. Et ce qui ne veut pas du tout dire se fermer, simplement anticiper aussi les enjeux. Et on a, sur la question de la transition écologique, le maître mot, c'est l'anticipation et c'est la gestion du risque auquel nous devons faire face.
Sur la question de la sobriété, vous recommandez, alors qui est un point pour moi, je trouve ça très important, c'est de taxer les emballages inutiles et non recyclables, de consigner le verre et de mettre en place un plan zéro plastique. Et on est absolument affolé quand on va faire ses courses dans les magasins de voir à quel point ça n'est, mais vraiment on en est loin. Hein.
Oui, on en est loin parce que encore une fois, on a pris des habitudes et ces habitudes, il faut les faire évoluer. Alors, on ne peut pas juste faire évoluer les habitudes, ça prendra trop de temps. Donc, il faut de la réglementation et il faut aussi aider les secteurs économiques qui sont liés à ça pour les faire évoluer. Donc, il y a déjà des mesures qui ont été prises dans la loi anti-gaspillage là-dessus. La fameuse loi, on a beaucoup parlé de la consigne, mais en fait, dans cette loi, il y avait beaucoup de choses, notamment sur les plastiques. Mais face à ça, n'oublions pas que nous avons aussi un certain nombre de lobbies. Donc, la question est bien aussi de sensibiliser les citoyens et d'aider les entreprises à se reconvertir pour éviter d'être ensevelies sur les plastiques et aussi donner des alternatives. Parce que pour certaines utilisations, c'est facile. Oui. On peut avoir changé les emballages uniques et, par exemple, venir avec son propre emballage dans les supermarchés pour aller récupérer du vrac. Ça commence déjà à se faire. Mais, par exemple, on est en plein dedans en ce moment sur les questions sanitaires. Les emballages, tout est sous plastique pour des questions sanitaires. Donc il faut aussi qu'on réussisse à améliorer notre recherche. Et il existe déjà des alternatives, mais pour généraliser des alternatives à ces plastiques dont on se sert pour toutes ces questions de santé et d'hygiène. Donc il y a des choses faciles à faire, d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. Il faut s'y attaquer tout de suite.
Barbara Pompili, députée La République En Marche, présidente de la Commission Développement Durable à l'Assemblée Nationale. On va aller au standard 01 45 24 7000. Les auditeurs de France Inter veulent vous poser quelques questions. Philippe est en ligne, il nous appelle de Bretagne, je crois. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour, j'appelle des Côtes du Nord. Donc, à ce titre, je suis dans un des 25 départements français où le préfet autorisait l'épandage à 3 mètres des habitations. Alors, c'est en dérogation d'un arrêté de décembre, du 31 décembre 2019. Les dérogations devaient être accordées suite à une concertation organisée d'ailleurs par les chambres d'agriculture. Il n'en a rien été. Les chambres d'agriculture ont présenté un projet qui a été discuté avec personne, et qui finalement est appliqué d'office, c'est-à-dire qu'en fait on autorise les épandages de pesticides à 3 mètres, alors même que nos enfants sont dans les jardins.
Et donc votre question ?
Eh ben, est-ce que c'est un bon signe pour le monde d'après que de fidèlement autoriser un type d'agriculture qui est néfaste pour notre santé ?
Barbara Pompili, vous n'avez pas été tendre, vous, la macroniste, avec cette politique d'Emmanuel Macron, enfin du gouvernement, sur sa politique d'épandage, celle qu'on a donnée au préfet, n'est-ce pas ?
Oui, avec un certain nombre de députés, d'ailleurs, hein, de La République En Marche, nous avons envoyé un courrier au ministre pour lui dire que c'était une vraie difficulté d'avoir, sous prétexte, en fait, de devoir gérer l'urgence et de devoir gérer la crise du Covid, de remettre en cause des mesures que nous avions négociées. C'est vrai que ces chartes, c'était déjà pour nous le minimum qu'il fallait faire pour que, au moins, les riverains, les agriculteurs puissent essayer de s'entendre et de se comprendre et puis de travailler pour gérer cette question des distances en attendant qu'on s'occupe plus largement de revoir notre modèle agricole qui est absolument indispensable. On a la réforme de la PAC pour ça et on s'y engage déjà dans le plan des paiements pour services environnementaux, etc. Mais cette question des distances, elle crispe. Parce que aujourd'hui, on a des difficultés à savoir quelles sont les implications sanitaires de ces distances. On a des divergences d'appréciation sur le sujet, et les riverains légitimement se sentent complètement écartés quand on prend des décisions alors qu'on était supposé avoir une concertation. Donc normalement, ces mesures ne sont supposées durer que jusque la fin de la crise.
Oui,
et
sauf
après,
que...
il va falloir revenir là-dessus.
L'éphémère dure parfois beaucoup plus longtemps que prévu, hein.
Voilà, et tout le sujet là de justement de la gestion de crise et de la sortie de crise, c'est ça. C'est il va y avoir des mesures d'urgence qui sont prises, certaines sont évidemment nécessaires et il faut les prendre, mais en même temps, il risque d'y avoir un certain nombre de mesures qui reviennent sur des avancées environnementales. Le gouvernement s'est engagé à ne pas le faire, ben il va falloir qu'on surveille ça de près parce que cette tendance là va être évidemment forte et ce serait une catastrophe si on y cédait.
On retourne au standard. Question de Roger qui nous appelle de Toulouse. Roger ?
Oui, bonjour.
Bonjour, quelle est votre question ?
Question simple et rapide. Voilà, dans le changement climatique, la France pèse dans le CO2 de l'ordre de 3-4%. Si on inclut l'Europe, c'est entre 12 et 15%. Si on écoute tous les grands spécialistes, et pour réussir la transition écologique, il va falloir faire des efforts encore plus importants que ce qu'on fait actuellement. Mais jamais on ne nous explique comment on va faire intervenir la Chine, les États-Unis, l'Afrique, l'Inde, et qui sont quand même les pourvoyeurs de 85% du CO2. Donc la question est simple, comment font tous ces grands spécialistes pour nous prouver que l'effort qu'on va demander aux Français est suffisant ?
Eh bien, voilà. Une spécialiste va vous répondre, une spécialiste de la transition écologique, justement, Barbara Pompili. Comment faire pour convaincre les puissances d'être au moins aussi écologiques que ne le fait la France ?
On n'est pas dans le gouvernement de la Chine, donc on ne va pas pouvoir changer les choses directement. Par contre, on peut les influencer, et les influencer très fort. On a beaucoup d'échanges avec la Chine. La Chine est aussi... Nous sommes dépendants de la Chine, et nous l'avons vu pour un certain nombre de marchandises, et je crois que c'est une partie du problème. Il va falloir retravailler à recentrer nos productions en Europe et en France. Mais eux aussi sont dépendants de nous. C'est-à-dire que si nous, on impose un certain nombre de règles, notamment des règles environnementale, notamment une taxation carbone aux frontières de l'Europe, comme on est en train de travailler à le faire, ça va obliger aussi la Chine à modifier ses modes de production et à tenir compte de ce que nous demandons. Et puis, il y a en Chine aussi une population qui prend de plus en plus conscience des enjeux environnementaux. Moi, quand je suis allée à Pékin il y a quelques années, les taux de pollution étaient terribles. Et même si le régime chinois est un régime compliqué, cette prise de conscience des atteintes à la santé pour les familles, ça leur pose un problème politique. Donc tout le monde est obligé de commencer à y réfléchir.
Merci beaucoup, Barbara Pompili, députée La République En Marche de la Somme, présidente de la Commission Développement Durable à l'Assemblée nationale. Merci d'être venue éclairer nos lanternes ce matin sur France Inter et bonne journée.